France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie et bonjour chère Marilyn Desbiol. J'ai tellement aimé le tournis provoqué par cette ronde des roses. On s'accroche à Rose Rose, la Shérazade d'une seule nuit, mais on lui découvre mille vies. Et il faut cesser de vouloir dérouler un fil unique. Il faut accepter de passer d'un récit de vie à l'autre pour voir s'élaborer une rose la nuit aux mille visages, aux mille histoires.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Rose is a rose is a rose is a rose. Peut-être ces quelques mots d'un poème que Gertrude Stein compose en 1913 sonnent-ils connus à vos oreilles? C'est à lui que j'ai pensé en commençant le roman au programme de votre book club aujourd'hui. Pour l'écrire, l'autrice Marilyn Desbiol a passé une petite annonce dans le journal. Elle voulait simplement rencontrer des personnes s'appelant Rose. 7 roses ont répondu et une 8e est apparue. C'est mystérieux ce qu'on trouve dans un présent lorsqu'on l'ouvre comme une boîte. Il y a toujours au moins une histoire et il y en a souvent 1000 autres cachées par-dessous. Marilyn Desbiol rejoue la voix du conte qui retient la nuit, voix de résistance et de lien. Qu'est-ce que c'est que ce geste, au fond, de prendre dans sa voix, sans les dissoudre, un petit peu des histoires des autres? Marilyn Desbiol est notre invitée pour répondre à toute cette question et les autres. Ensuite, et comme chaque jour, on cherchera de la musique dans les livres. Et ça tombe bien, il y en a ici. On est ensemble pour une heure, je suis ravie. Tous nos vœux, bienvenue dans le Book Club. Bonjour Marilyn Desbiol.
Bonjour.
C'est à vous que revient le plaisir, j'espère, d'ouvrir cette nouvelle saison 2025 du Book Club de France Culture. Bienvenue ici, Rose la nuit, apparue aux éditions Sabine Vespizer. Vous étiez déjà venue au Book Club de France Culture, c'était en septembre 2024, pour un livre paru dans la même maison qui avait entre autres obtenu le prix littéraire Le Monde. Donc vous aviez déjà répondu à ce qui ouvre habituellement notre émission, le questionnaire lecture, qui entend faire connaissance avec nos invités en parlant de leur rapport au livre. J'invite donc nos auditeurs et auditrices peut-être à lire la graphe, ce roman, et puis à réécouter cette émission. Vous disiez dans ce questionnaire que c'était votre père qui vous avait appris à lire avant l'âge où on apprend normalement à lire, parce qu'il avait remarqué que vous cherchiez toujours à décoder tout ce qu'il y a autour de vous. Je parle sous votre contrôle, hein. Je fais un petit résumé de ce questionnaire, vous me dites si tout est encore vrai. Vous avez fait de vous un portrait en tant qu'enfant lectrice, vous tombiez tout ce qui vous tombait sous la main, vous lisiez, pardon, tout ce qui vous tombait sous la main, et puis vous êtes lecture, vous avez fait une grande lecture de Gide, de Mauriac, de Julien Green à l'adolescence, puis Joyce, puis Cummings, puis Sarraute, puis Faulkner. Ce sont ceux que vous citiez à l'époque. Vous aviez évoqué un plaisir de la relecture et une amitié, une lecture de John Berger qu'on entendra tout à l'heure dans les archives qu'on a sélectionnées. Je vous avais posé la question à l'époque, est-ce qu'il y a des livres qui vous attendent? Et vous aviez dit, c'est certainement un livre inconnu qui m'attend quelque part, un livre dont on ne parle pas beaucoup. Super réponse.
J'espère que j'ai tenu promesse.
Peut-être que, voilà. En tout cas, celui que vous avez écrit ou ceux que vous avez lus, parce que je voulais vous demander, peut-être pour compléter ce questionnaire lecture ou faire réponse à ce premier questionnaire lecture de 2024, ce qui s'était passé dans votre vie de lectrice depuis un an et demi, Marilyn Desbiol.
Beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai lu des livres importants que j'avais jamais lus, par exemple, L'élance du crépuscule de Descola, etc. Mais je retiendrai alors... Plutôt une Américaine, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres Américains en ce moment. Et j'ai adoré un livre vraiment de Louise Gluck qui s'appelle Marigold et Rose, et dont un extrait est l'épigraphe de Rose la nuit, de mon livre. C'est un livre vraiment merveilleux. Alors, c'est le seul, je crois, qu'elle a écrit en prose.
C'est ce que j'allais dire. Moi, ouais. Pour moi, Louise Gluck, c'est une poétesse.
Oui, mais c'est écrit en prose, mais... C'est quand même...
Mais ça vibre de poésie.
Ça vibre de poésie. Et il est question de deux petites filles qui ont un an, qui évidemment ne savent pas, normalement ne savent pas bien parler et encore moins écrire, mais qui ont le projet, une des deux, Marigold, a le projet d'écrire un livre. Et elles se parlent, alors c'est pas qu'elles se parlent par la pensée, elles se parlent par, comment dire, par l'intérieur. Et on revient là à l'essence même du langage. Combien le langage... à ce moment-là, quand il est écrit, quand il est pris, quand il est incorporé par Louise Gluck, c'est une rébellion contre tous ces mots affreux qui nous obstruent, qui nous empêchent de penser, tous ces superlatifs immondes pour qualifier des actes de guerre, par exemple. Combien là, on revient à l'essence du langage avec Louise Gluck, à sa douceur aussi. Et combien c'est vraiment une rébellion par la douceur contre ce monde qu'il est peu.
C'est un texte court ?
C'est un texte très court. Mm. Mais pour moi, c'est vraiment ce que j'ai lu de plus magnifique depuis longtemps. Donc c'était peut-être...
Une des choses qui vous est arrivée de fort dans votre vie de lectrice.
Vraiment.
Et c'était peut-être ce fameux livre que vous espériez trouver sur votre chemin et dont on parlait peu. Vous aviez rencontré l'œuvre de Louise Gluck par la poésie ?
Oui.
Oui, vous étiez déjà lectrice.
Oui, mais alors ce livre-là, évidemment, il est paru après sa mort, je crois bien. Il nous parle, évidemment, de cette vie intense du bébé et du langage. C'est génial.
Vous avez dit, il m'est arrivé deux trucs.
Oui, deux trucs. Parce que je vous parle aussi d'un Américain. Là, je n'ai pas fini de le lire, parce que c'est un gros livre. C'est un livre de David Graeber. Qui, vous savez, c'est lui qui a parlé pour la première fois, enfin qui a parlé des bullshit jobs, mais c'est pas ce livre-là.
Ce qu'on entendait, donc c'est lui est plutôt un chercheur en anthropologie.
Voilà, anthropologie.
Les bullshit jobs, c'était ce qui lui permettait de conceptualiser les travaux qui perdent totalement leur sens pour ceux qui les exécutent.
Exactement, mais c'est vraiment très important. Et là, il écrit un livre qui est... Alors lui aussi, il est paru après sa mort parce qu'il nous a fait le sale coup de mourir un peu brutalement. Je ne sais plus quand, il y a quelques années. Mais son livre, Au commencement, était... C'est un livre, alors là, je trouve... Alors, c'est un Américain aussi, qui est un anthropologue, comme vous l'avez dit, qui est aussi un activiste, qui a fait partie de plein de mouvements contestataires, qui s'est fait virer de la fac, d'ailleurs, je crois, après ça. Et Au commencement, était... Il l'a écrit avec un archéologue, David Wengrow, si je ne me trompe pas. Et là, il reprend tous les clichés sur les origines de l'humanité, sur et qu'il nous montre que le patriarcat, la violence, la hiérarchie n'est pas ne va pas de soi.
N'est pas un donné, quoi.
N'est pas un, et ça, c'est important. C'est important parce que ça nous donne quand même quelque espoir. alors moi, je n'ai pas fini de lire ce livre parce que c'est pas un livre difficile à lire, mais c'est un gros livre bourré de. C'est pas un livre seulement idéologique, c'est un livre aussi extrêmement
savant
et qui nous donne plein d'exemples et qui remet en cause complètement tout ce qu'on a pensé sur les chasseurs-cueilleurs par exemple, sur l'agriculture, sur la sédentarité. C'est vraiment formidable. Ça nous lave le cerveau là encore.
Je vous ai posé la question en utilisant la phrase et aussi l'idée que les livres sont des choses qui nous arrivent, pas au sens où ça nous arriverait comme ça du ciel, mais au sens où ça nous percuterait, où ça nous atteindrait, ça nous ferait quelque chose à la vie, au corps, à la pensée, Marilyn Debiol. D'une part, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? D'autre part, ils vous arrivent d'où, les livres, quand même ? Ces deux-là, par exemple, vous les trouvez comment sur votre chemin ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
Marigold et Rose.
Donc le livre de Louise Gluck.
Oui, en fait, je l'ai vu dans une librairie où il était quand même présenté sur un, je sais plus où. C'est dommage. Mais ça m'a attiré l'œil, quoi. Mm-hmm. Le titre. David Graeber, non, j'ai lu un article. Voilà. Ou plutôt David Graeber. Je l'ai entendu parler, c'est un bonhomme avec lequel qu'on aurait aimé rencontrer aussi. Parce que c'est un bonhomme, très convivial. Il parle, en plus, il nous fait l'amitié, si j'ose dire, de rendre des choses difficiles extrêmement compréhensibles. Ça, vraiment, on sent la générosité du bonhomme. Je l'ai entendu parler, voilà. C'est ça qui m'a donné envie de le lire.
Si je me permets de parler de ces deux livres-là sans les avoir du tout lus, je dirais qu'ils amènent quand même sur notre table du Book Club l'idée du commencement. À la fois deux petits êtres de un an, qui n'ont pas encore la parole, mais à qui l'écriture de Louise Gluck permet d'avoir la parole, la pensée, l'écriture. Et puis le titre de Graeber, Au commencement était.
C'est vrai.
Or, il me semble que ça, c'est quelque chose qui... pourrait travailler vos récents livres, en tout cas, un intérêt pour là où ça commence, ou ce qu'il y a dans les mots, ou peut-être aussi un intérêt pour le début du langage, l'origine du langage, la préciosité de la façon dont nos vies s'accrochent au langage. Est-ce que je vise juste, Marilyn Debiol ?
Vous visez tellement juste, ça me... merci pour ce cadeau. Non, c'est vrai. C'est vraiment tellement ça qui me meut, en fait, d'essayer toujours... Et c'est vraiment une ambition d'être au commencement, d'essayer de retrouver cette énergie-là. du commencement. C'est pas gagné. Hein,
mais... Et qui n'est pas forcément le vôtre. J'ai pas l'impression que ça se branche nécessairement à votre commencement.
Non. Au commencement, je dirais, du désir et du langage, évidemment. Mais du désir, oui.
Oui, et là où ça chauffe, quoi.
Oui, là où ça chauffe.
J'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui encore est présent, ce feu-là ou l'idée de souffler sur les braises. Subtilement, vous avez quand même fait écho au temps que nous traversons, là, les temps de manière générale depuis quelques mois, puis les temps tout contemporains depuis quelques jours, Marilyn Debiol, en opposant déjà d'une part peut-être plusieurs façons d'être américain en ce moment, mais aussi plusieurs façons de manier les mots. Est-ce que dans des temps très agités, géopolitiquement parlant, les livres, la lecture sont une ressource particulière ou pas spécialement ?
Oh si, moi je trouve vraiment que ça nous... Enfin moi ça me recentre, ça nous recentre parce que vraiment, littéralement, on ne sait plus où on habite là en ce moment.
Pourquoi on ne sait plus où on habite ?
Bah, parce que c'est aussi une affaire de langage d'ailleurs, parce que, comment dire... Des gens s'approprient des mots qui nous sont chers, comme les mots liberté, justice, alors qu'on sait très bien que c'est dévoyé. Trump manie des superlatifs, du genre c'est magnifique pour qualifier des actes de guerre. Tout ça nous brûle le cerveau, littéralement. Je trouve que essayer de se remettre dans des livres, dans des mots justes, qui cherchent, en tout cas, le mot juste, le mot précis, ça nous fait du bien. Enfin, ça nous recentre, oui.
Savoir de quoi on parle, ça permet de savoir où on habite.
Oui, je pense.
Ou comment on peut habiter, en tout
oui.
cas.
Oui.
Et concrètement, ça se traduit comment ? Vous lisez plus ? Vous visez plus précisément ce que vous voulez lire dans des moments agités ? Ou vous vous dites que, de toute façon, la vie et le monde ont toujours été agités ? Et pourquoi se poser plus cette question en ce moment qu'avant ?
Oui, non, moi, je lis pas plus ni moins, mais je sais à quel point c'est précieux. Je ne pense pas que la littérature ait une fonction, et Dieu merci, elle n'en a pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, pour moi, en ce moment, c'est le bien le plus précieux.
Eh bien, on mettra les deux choses qui vous sont arrivées. Deux parmi tant d'autres, on imagine, Marilyn Debiol, dans cette vie de lectrice, en lien sur la page du Book Club. On va parler de votre livre à vous, Rose la nuit, qui nous a mis sur la piste d'une trop belle chanson qui s'appelle Can I Call You Rose, d'un groupe qui s'appelle These Sacred Souls, et dans lequel il est question de planter quelqu'un dans un cœur pour que l'amour puisse pousser.
Can I call you Rose?
Cause
you're sweet like a flower in bloom.
Can I call you Rose?
Can I call you Rose?
Cause
your fragrance takes over the room.
Can I call you,
darling?
Can I call you Rose?
I wanna plant
The universe told me, put it in a love song.
France Culture, le Book Club, Marie Riche.
Aujourd'hui, c'est tout un bourdonnement, toute une rumeur de roses, une braise de prénoms sur laquelle il s'agit de souffler. C'est ce que vous faites dans votre dernier roman, Marilyn Desbioles, souffler sur les braises d'un mot, comme vous le faites au fond souvent, avec la conscience aiguë qu'il y reste toujours un truc brûlant pour parler. À l'origine, vous voulez rencontrer des personnes qui s'appellent Rose. Une petite annonce est diffusée dans le journal Libération, affichée aussi à l'Intermarché de Cantaron et partagée par le réseau Éducation sans frontières des Alpes-Maritimes. Cette personne vous répond et une apparaît. En plus, elle s'appelle Rose Rose. Elle apparaît dans un couloir d'hôpital et dans sa voix viennent se planter, comme des graines ou des épines, les autres histoires dans la nuit. Rose la nuit, c'est le titre du roman qui naît de ce geste. Il a paru aux éditions Sabine Vespizer en cette rentrée janvier 2026. Alors puisqu'il il est question de cette petite annonce, à la fois procédé d'écriture, mais procédé reporté dans le roman lui-même, documenté dans le roman lui-même. Est-ce que vous pouvez détailler cette contrainte que vous vous donnez? Et peut-être nous dire aussi, Marilyn Desbioles, ce que vous en attendiez? Avec quelles hypothèses vous lancez cette idée de petite annonce dans la nature?
Oui, alors j'ai eu cette idée qui peut paraître un peu folle. Parce qu'en vérité, ça me trottait dans la tête, je ne sais pas si c'est d'ailleurs dans la tête, mais enfin, ça me trottait, de faire quelque chose avec ce prénom Rose que j'ai déjà utilisé pour dans d'autres textes, mm-hmm. des personnages de fiction qui s'appelaient Rose, mais aussi parce que celle que j'appelle ma marraine, même si personne ne me l'a désignée comme telle, et qui est un personnage d'enfance, personne d'enfance, qui s'appelle Marie-Rose, qui était un personnage vraiment formidable, une femme qui pourrait paraître très sexy avec ses jupes courtes, mais qui était aussi une bergère, qui donc crapahutait dans les collines avec ses gros godillots.
Un corps solide, dites-vous.
Voilà, un corps solide, et qui injuriait ses chèvres qu'elle appelait des biques. Cette Marie-Rose-là, pour moi, elle est assez fondatrice. Elle est fondatrice, pas assez fondatrice. Et quelque chose me titillait justement autour de ce prénom aussi qui pourrait paraître suave et qui pour moi l'est si peu, puisque je l'ai entendu pour nommer cette bergère. J'ai eu l'idée donc de rencontrer, sans les avoir choisis, ces personnes nommées Rose, et c'est ça qui m'importait, c'est-à-dire de faire le pari que quelque histoire qu'on me raconte, admettons des histoires pas intéressantes, évidemment c'est pas arrivé, d'en faire quelque chose grâce à l'écriture. C'était ça le pari au fond. Et j'ai pas été déçue, bien sûr, parce que toutes les vies de ces femmes, de ces sept femmes qui se sont présentées à moi, étaient extraordinaires. Comme toutes les vies qui pourtant ne sont pas celles d'héroïnes, évidemment. Mais c'était ça le pari, c'était de ne pas les choisir et d'axer notre entretien sur le prénom.
Mmh. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a au moins deux choses que vous choisissez. C'est ce prénom-là,
oui,
qui réunit les personnes que vous rencontrez. Et le fait qu'à tout le moins, probablement, elles se genreront ces personnes au féminin. C'était une première manière de choisir les histoires que vous alliez entendre. Peut-être revenons sur cette première Marie-Rose qui fait que ça trottait en vous, l'idée d'écrire sur les roses. Parce qu'on part de son corps solide, mais vous parlez aussi de sa voix dans votre roman. Vous dites que de ce qui vous est resté, comme ça, dans la brume d'enfance, il y a la voix. Et je pense que c'est intéressant de parler tout de suite de la voix de cette dame qui gravite autour de votre enfance, Marilyn Desbioles, parce que ensuite, il va être quand même question d'un relais de voix avec des frontières plus ou moins floues. Qui parle et qui parle à qui?
Oui, oui, bien sûr, elle a une voix, vous avez complètement raison, elle a une voix rauque. Cette Marie-Rose, je l'ai vraiment dans l'oreille. Une voix très particulière, comme sont toutes les voix. Mm. Et c'est vrai que souvent, on reconnaît plus, enfin moi je reconnais plus les voix que les visages. Et les voix m'importent énormément. D'ailleurs, je pense que tous mes livres, au fond, sont tissés de voix, que ça m'importe beaucoup d'entendre les mots, nos mots communs dans les voix des autres, avec des accents différents, avec des tournures de phrases différentes. C'est vraiment ça qui me donne envie d'écrire, mais oui. C'est vraiment ça. C'est-à-dire tout ce murmure qui se dépose en moi et qui, ben justement, on parlait de commencement, qui font que les choses recommencent toujours grâce à ces voix nouvelles ou ces voix que je croyais oubliées qui se rappellent à moi.
Et alors concrètement, vous rencontrez ces personnes?
Oui.
Vous parlez avec elles? Vous les enregistrez?
Non.
Vous prenez des notes?
Oui, je prends des notes. C'est-à-dire que, alors d'abord, je ne leur demande pas de me raconter leur vie, mais je leur demande quelle relation elles ont avec ce prénom. Pourquoi elles s'appellent Rose? Qu'est-ce qui leur importe? Évidemment, elles se sont présentées à moi parce qu'elles s'appellent Rose, donc elles ont une histoire avec leur prénom. Mm-hmm. Ça change complètement tout, cette focale, justement. Et puis, et je prends des notes aussi, c'est-à-dire que, mais ça je ne l'avais pas anticipé, quand on est l'une en face de l'autre, on est déjà dans le livre. Moi j'écris, elles ne savent pas que j'écris très vite et que je note tout ce qu'elles me disent. Évidemment, il y a des choses que j'arrive plus à relire après, ou que j'oublie, mais quand même, parce que je n'ai rien inventé de ce qu'elles me racontent. Mm-hmm. Hein. J'invente rien, j'essaie de faire avec tout ce qu'elles m'ont dit. Et ça c'est important pour moi. Mais aussi, je m'immisce là-dedans. Je suis littéralement, dès le début, immiscée, puisque c'est moi qui prends des notes. Donc, il n'y a pas de lézard. Elles savent très bien que je suis là et que nos deux corps sont présents, nos deux voix sont présents dès l'abord.
Je pense que c'est intéressant d'approfondir cette idée, Marilyn Debiol, de qu'est-ce que c'est que d'être déjà dans un livre quand on parle avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça crée deux personnes qui ont conscience, qui sont déjà dans un livre, qui sont pris dans un travail d'écriture.
Oui, c'est...
Ça change la parole.
Ah oui, complètement. Elle ne me parle pas, je pense qu'elle ne me parle pas... ce n'est pas une conversation ordinaire. Mm-hmm. Ça n'a rien d'extraordinaire, du reste. Mais ce n'est pas comme si on se parlait sans ce cahier qui est entre nous et sans ce crayon, ce stylo, c'est un crayon, que j'ai entre les mains. C'est étrange. Mm. Je ne saurais pas vous répondre exactement, mais je sais...
Moi, je pense même que c'est un espace mental. Je pense même que...
Oui. Et donc, on est en train... elle participe... C'est troublant, c'est un peu vertigineux. Elle participe à l'aventure du livre d'emblée.
On va écouter la voix de quelqu'un qui s'y connaissait et qui aimait bien lui aussi donner des contraintes, des jeux, des points de départ à ses textes. C'est Georges Perec, on est en 1980, il est au micro de Jacques Pogam sur France Culture.
Une idée de livre, c'est tellement flou. Ça commence au moment où tout ça va se mettre en mots. Je veux dire, ce qu'il y a de terriblement excitant et déprimant dans l'écriture, c'est qu'on est obligé de tracer chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque page, que ça passe par un travail physique, qui est, en fait, quand on commence à écrire sur un cahier ou sur des feuilles de brouillon, l'essentiel d'un certain travail, je sais pas comment le désigner, est déjà fait, déjà élaboré. Mais ce qui se passe au niveau de la table de travail avec cette feuille blanche, et puis qu'on commence à écrire, et puis les mots se forment, et puis ça fait une ligne, puis une autre ligne, puis une autre ligne, puis il y a une espèce, c'est comme un champ qu'on laboure. Enfin, je veux dire, il faut passer sur tous les sillons, et c'est là, en fait, que tout s'opère, que tout s'amalgame, que tout se... Je veux dire, on a parfois l'impression que le livre existe, qu'on l'a dans la main, qu'il n'y a plus qu'à l'écrire, on dit. Et en fait, il n'a pas encore commencé.
Vous voyez, lui aussi, il a l'impression de tenir le livre dans la main. Georges Perec, 1980. Qu'est-ce qui se passe à la table de travail pour vous, Marilyn Debiol? Perec dit, il faut labourer, quoi. Ça suffit pas de l'avoir l'idée. Après, il y a quelque chose qui s'écrit en écrivant.
Évidemment. D'ailleurs, moi, c'est pas une idée qui préside au livre. D'ailleurs, si c'était une idée, je pense que ça serait mal barré. c'est pas une idée, c'est beaucoup plus incorporé, encore une fois. Il parle beaucoup de ce travail du corps, Pérec, mais c'est complètement ça. C'est vraiment un travail manuel. Un travail, non pas seulement manuel, c'est un travail de tout le corps, l'écriture. Et c'est un travail laborieux, oui. Ça, c'est vrai, aussi. C'est pas comme ça, un geste, même si, au final, on pourrait penser que c'est un peu délié, etc., mais ça l'est tellement pas. C'est tellement...
Il utilise, lui, la métaphore du labour, oui. Que vous reprenez finalement en disant que c'est laborieux. Comment Exactement. Expliquer cette idée du travail laborieux à des personnes qui n'auraient jamais passé 30 minutes, une heure ou 6 heures à une table de travail d'écriture, Marine Desbiens?
Tout le monde sait bien que c'est laborieux d'écrire. c'est Oui, c'est difficile.
Quel que soit, en fait, le lien qu'on aurait avec l'écriture.
Moi, il me semble, oui. On sait bien que ça vient pas comme ça, quoi. Là encore, le pari, j'ai déjà dit ce mot, mais oui, encore, le pari, c'est de... c'est pas que ça ne se voit pas, mais c'est de garder le désir intact malgré ce labeur, malgré cette tâche, quoi. Et de garder cette, vous l'avez dit, cette flamme, ce feu, malgré tout.
Et vous qui vous êtes intéressé à des corps qui travaillent, à des corps ouvriers, à des corps qui font des gestes, Marine Desbiols, c'est quelque chose qui vous plaît, l'aspect laborieux du travail de l'écriture?
Oui. Moi, je crois que j'aime tout dans l'écriture, même les corrections. la relecture, oui. Pour moi, il n'y a rien à jeter dans ce travail.
On va écouter un extrait de votre livre « Rose la nuit ».
Elle disait « La peau me brûle, j'ai un mantelet de flammes sur les épaules ». L'infirmière souriait au mot de « mantelet », elle lui faisait répéter. Il cadrait mal avec la femme qui avait été amenée aux urgences, à moitié nue, à moitié inconsciente, le corps couvert d'échymoses, d'égratignures, de plaies, et l'arcade sourcilière ouverte. Les épaules avaient été épargnées, mais c'était des épaules que la femme se plaignait. Elle disait « Je m'appelle Rose ». Et l'infirmière n'y croyait pas plus qu'au mantelet. On se demande bien pourquoi. Peut-être pensait-elle que ce grand échalas de femme, maigre avec ses larges épaules, celle-là même qui brûlait, sans qu'il y ait nulle trace de brûlure, nulle trace du mantelet de flamme. Peut-être l'infirmière trouvait-elle que la grande femme ne correspondait en rien à l'idée qu'elle se faisait de Rose, gracieuse, délicate et selon elle féminine. L'infirmière ne savait sans doute pas que Rose fut d'abord un prénom masculin, introduit par les Normands en Europe du Nord et en Grande-Bretagne, et qui, se frottant à la fleur, Rosa en latin, perdit sa virilité. Et que ce prénom ait été attribué à des hommes puis à des femmes, aurait pu dans la foulée nous faire perdre l'idée de distribuer aux hommes et aux femmes des qualités distinctives. Ou du moins nous mettre la puce à l'oreille. Mais on en est loin. Et quoi qu'il en soit, l'infirmière ne croyait pas que la femme puisse l'appeler Rose. Rose comment ? Rose. Il fallait bien s'en contenter. La femme, dépenaillée, n'avait aucun papier sur elle.
Évidemment, dans votre roman, Marilyn Desbiols, c'est très important comment l'on s'appelle. Et dans la vie, c'est très important comment les femmes s'appellent. La question du nom des femmes et du nom qu'elles portent après leur prénom est le fruit de toute une histoire qui a à voir avec le patriarcat, avec la place des femmes dans les familles, dans les héritages, dans l'histoire, tout simplement. Et cette voix qu'on découvre dans l'extrait, qui s'appelle Rose Rose, qui redouble le nom, elle va avoir en plus le rôle dans votre texte de porter les autres voix, Marine Desbiols. Alors, puisque c'est elle qui apparaît, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Ce serait celle que vous n'avez pas rencontrée par petite annonce.
Exactement. C'est une Rose de fiction. Mais ce que je voulais dire aussi, en vous écoutant, je pensais à ça, c'est que je me suis, enfin, comme beaucoup de femmes, insurgée contre le fait qu'on appelle toujours les femmes par leur prénom. Et là, justement, je renverse cette insulte faite aux femmes. Eh bien oui, alors là, c'est un seul prénom. C'est le prénom.
Doublé.
C'est Rose Rose, donc, qui est... je pense que cette Rose Rose, elle est comme une voix qui est née des autres, finalement. Mais maintenant que je vous en parle, j'arrive plus à la distinguer véritablement des personnes. Ce personnage est à l'égal des autres, des femmes que j'ai rencontrées en vrai, parce que elle émane d'elle en vérité. Elle émane d'elle et alors évidemment, elle émane d'elle. Non seulement elle émane d'elle, mais c'est elle qui délivre leurs histoires. Il y a une double comme ça, une double résonance. Mm-hmm. Et cette rose de fiction, pour moi, son corps m'apparaît aujourd'hui encore plus vivement que le corps de mes roses. Je la connais plus, d'une certaine manière.
Et alors justement, parlons-en de ce corps qui apparaît dans un couloir d'hôpital, cette femme qui n'a pas de papier. Il faut donc se contenter et il faut la croire.
Il faut la croire.
Il faut l'écouter. Et c'est pas gagné pour elle, mais c'est ce qu'elle va gagner, l'écoute de celles et ceux qu'elle va rencontrer en racontant d'autres histoires de Rose. Mais c'est un corps violenté. Donc c'est intéressant que vous disiez que cette Rose Rose émane des autres femmes parce que elle est quand même dans un sale état quand elle apparaît.
Oui. Oui, c'est vrai. Mais les roses que j'ai rencontrées ne manquent pas aussi d'avoir été un petit peu cabossées.
Ouais.
Par la vie, notamment Rose du Nigeria, qui nous arrive donc du Nigeria, qui ne m'a pas raconté tout ce qui lui était arrivé, parce que c'est impossible, que on imagine à peine, notamment, hein, mais toutes ces roses, au fond, ont été un petit peu, pas toutes violentées, mais en tout cas, elles ont été un petit peu cabossées par la vie. Hein. Donc oui, tout ça est, comment dire, un peu exalté dans le corps de cette Rose Rose qui, elle, est à la rue. Mm. Comme si toutes les histoires qu'elle racontait avaient amené à cette déchéance, on pourrait dire.
Ou très grande vulnérabilité.
Très grande vulnérabilité, oui. Et en même temps, elle est... En même temps, c'est elle qui compte. Mmh. En même temps, c'est elle qui sait compter.
Dans les deux sens, c'est elle qui compte et c'est elle qui compte.
Exactement.
Absolument dans les deux sens, Marilyn Debiol, puisque c'est à la manière d'une Scheherazade, parce qu'elle réussit à conquérir les oreilles qui l'entourent dans cet hôpital débordé, qu'elle ne sera pas mise dehors tout de suite, qu'elle peut peut-être avoir un peu de chaud, qu'on peut peut-être lui prêter un bout de coussin ou de genou pour poser la tête, qu'on peut peut-être remonter un drap sur elle pour qu'elle ait moins froid, etc., etc. Et elle est précédée du regard que la narratrice, peut-être vous, Marilyn Debiol, pose sur elle, alors qu'elle vient, cette narratrice, se faire radiographier les dents. On l'a dit, elle parle pendant toute une nuit, et il est beaucoup question de la manière de transmettre son histoire, dès le dispositif, mais aussi dans le roman. On va écouter un nouvel extrait de votre texte, suivi de la voix, on a déjà prononcé son nom, de John Berger.
On raconte des histoires aux enfants pour qu'ils s'endorment, mais aux grands aussi. Pas pour qu'ils oublient, pas pour qu'ils s'illusionnent. Pour qu'ils incorporent les histoires au sommeil, pour que les paroles soient baignées de sommeil. Pour qu'elles perdent leurs contours, qu'elles se mêlent à des paroles inconnues, murmurées, chantées. Pour qu'elles se mêlent aux cris des animaux, aux cris qu'on ne sait pas entendre, aux cris qui nous interdisent, aux cris qui nous serrent la gorge. Pour que les paroles mêlent leur sens, les agrandissent, les perdent, pour qu'elles s'enfoncent dans le sommeil, ou au contraire flottent à la surface, une écume indistincte, bouillonnante.
Tout est narration sur cette terre, et ça commence avec la création, et ça continue jusqu'à la fin. C'est une forme de narration, ce que nous vivons. Donc, j'emploie les catégories différentes, les gens différents. Mais c'est toujours plus ou moins avec la même idée, avec le même esprit. Quand le chien en moi, c'est toujours le même, un parfum, la même odeur qu'il suit. Cette trace narrative de ce que se passe, ce qui arrive aux hommes, aux femmes, bien sûr. Alors, est-ce que je me cache? Oui, sûrement. Mais c'était pas, comme l'enfant dit, je ne fais pas ça exprès. Et c'est pas un effort. Et je crois que les vrais conteurs, les vrais narrateurs, souvent, ont un sens d'identité pour eux-mêmes assez faible, ou plutôt instinctive, comme le chien. Parce que, si tu veux, ce n'était pas exactement un manque d'identité. Identité qui est peut-être très fort, mais qui n'était jamais formulée. Bien sûr, c'est possible de se prêter aux identités des autres beaucoup plus facilement.
Moi, je pourrais l'écouter 15 000 fois, cette archive, tellement je l'aime. Elle date de 1990. Le romancier, l'écrivain est au micro d'Elisa Manta en 1990, donc sur France Culture, John Berger. Suivre comme ça dans la vie la piste de la fiction comme un chien, c'est toujours la même odeur que je suis, dit-il. On va commencer par ça, parce que juste avant, on entendait un extrait de votre propre texte, Marilyn Debiol, qui parlait des histoires qu'on raconte, aux petits comme aux grands, et du lien qu'il y a aussi avec le sommeil et avec la nuit. John Berger qui dit « tout est narration ». Il me semble que c'est aussi quelque chose qui scintille dans votre texte, quoi, notre rapport aux histoires.
Ça m'émeut d'entendre John Berger qui disait de lui qu'il était un, qu'il ne disait pas de lui qu'il était un écrivain, mais un storyteller. Et ça, c'est vraiment important. Jusqu'à le rencontrer, je me disais pas ça, que je racontais des histoires, parce que souvent je ne raconte pas des histoires qui vont du début à la fin. Mais raconter des histoires, c'est pas, il n'est pas obligé de suivre une narration traditionnelle. Nos vies nous montrent et nous démontrent que la narration, qui va du début à la fin, l'air de rien, ne convient pas. Moi, je pense que John Berger, par exemple, il est extrêmement réaliste en empruntant d'autres chemins de narration. Moi, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, chez John Berger, c'est comment il fait réapparaître les morts à l'égal des vivants. Ça aussi, c'est une chose qui a l'air, comment dire, un peu folle. Et en vérité, c'est tellement vrai. Mm-hmm. Les morts nous accompagnent tellement de leur voix. Vous parlez des voix. Mm. Des voix dont nous nous souvenons et qui continuent de bruire à nos oreilles. Mais pardon, j'ai perdu le...
Bah, peut-être on peut poursuivre son fil à lui, c'est-à-dire l'idée que, comme un chien, en tant que storyteller, raconteur d'histoire, il suit l'odeur de la narration. Partout où il y aurait de la narration. Ce qui n'est pas exactement la même façon que suivre l'odeur de la fiction, mais finalement, si on suit le chemin de la narration, ça veut dire qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui s'ordonne tout à coup, Marilyn Debiol, quelque chose qui peut s'ordonner avec le langage. Qu'est-ce qu'il suit, John Berger, quand il dit « je suis à la trace comme le chien » et que peut-être vous suivez vous aussi?
Oui, c'est les histoires qui forment nos vies et qui sont précisément rebelles à tous les clichés qui les recouvrent. C'est quand quelqu'un se met à dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de, enfin qui n'est pas recouvert par ce que on lui a intimé de dire, ou parce qu'il est convenable de dire. Ces femmes, par exemple, ces roses, elles m'ont dit des choses que peut-être qu'elles ont regrettées après, mais vraiment, ça leur importait vraiment de le dire, même si c'était pas si convenable.
Et peut-être d'autant moins convenu par leur prénom.
Exactement.
Il y a aussi quelque chose dans ce projet-là qui joue sur l'ambivalence de ce mot apparemment fleuri, mais qui d'emblée, dès le début de votre texte, se marie notamment avec la figure de Rosa Luxembourg, redoublée par le fait que Rosa Luxembourg, en prison, tenait un herbier et que des fleurs, elle les a mis dans le papier. Il y a quelque chose qui navigue comme ça entre la fleur, qui pourrait paraître toute fragile, et la profonde résistance à différentes échelles de résistance, Marilyn Debiol. Et on sent que c'est quand même aussi à ça que vous tendez l'oreille dans les femmes que vous écoutez parler.
bien sûr. Et il est évident que mon écoute a induit aussi leur récit, leurs paroles, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les histoires que vous avez entendues de ces roses?
Ce qui m'a surprise, d'abord, c'est qu'elles me le racontent, finalement. c'est qu'elles acceptent, c'est qu'elles me fassent ce cadeau. C'est assez fou, quand même. Pour rien, au fond.
C'est pas si sûr. Le pour rien n'est pas si sûr. On a chacun nos raisons quand on raconte une histoire à quelqu'un, non?
Oui, mais elles me donnaient tout, et moi, au fond, je me contentais, si j'ose dire, de les écouter.
Et d'écrire,
c'est vrai. Mais c'est quand même, je le prends quand même comme un grand cadeau, vraiment. Et je les remercie ici. ce qui m'a surpris, c'est qu'elles me le disent. Mm. Et aussi qu'elles, comment dire, que leur histoire soit aussi extraordinaire et qu'elles résonnent entre elles aussi. C'est ça qui était formidable. C'est que ça...
On peut dire sur quel point, par exemple, il y a des échos?
Je ne saurais pas dire, mais...
Bah moi, je peux vous dire qu'il y a quelque chose d'un en dehors français. Il y a quelque chose de la migration qui est contenue dans ces femmes-là. Pas toujours, et pas toujours de si loin, mais toutes ces roses ont en elles quelque chose qui est venu d'ailleurs.
Ça, c'est vrai. Et alors, ce qui est fou, ce qui est quand même magique, c'est que c'est quand même un des motifs...
De votre livre, travail.
Ouais. Et que ça résonne alors terriblement en moi, vraiment. Et en effet, ces femmes que je ne connaissais pas me racontent des histoires qui résonnent avec mon histoire, au fond.
Ouais, un peu de la guerre d'Algérie, un peu de la migration, mais aussi un peu de la place ou la condition féminine.
Et mon identité en prend un sacré coup.
Vous rejoignez John Berger qui
Absolument.
Dit que bon, de toute façon, voilà. C'était un peu vacillant.
Et qu'elle se dissout complètement dans ses histoires. Et en vérité, quel plaisir.
C'est-à-dire?
C'est un grand plaisir d'avoir son identité, comment dire?
Éclatée.
De ne pas être tout d'un coup engluée dans son identité. Oui, c'est un bonheur, vraiment. Je l'ai ressenti... En tout cas, comme telle.
On va écouter Laurence, auditrice du Book Club. Elle vous a lu et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie et bonjour chère Marilyn Desbioles. Un immense merci pour ce jeu de saute-mouton par-dessus les roses dans lequel vous nous entraînez. Chacune est dite dans des phrases courtes. Les roses reprennent à peine leur souffle en évoquant leur joie, leur souffrance et aussi ce qui leur reste d'espoir. J'aimerais vous demander... ce que cette façon d'enchaîner les récits en perdre haleine dit de l'urgence à se raconter quand on est une humble rose. Merci de votre réponse, Marilyn.
Et merci à vous, Laurence, d'ouvrir le bal des questions d'auditeurs et d'auditrices de 2026.
Quelle belle voix!
Quelle belle voix! Et quel beau mot! C'est très beau l'idée qu'il y a une urgence à se raconter quand on est une humble rose, demande Laurence. À quoi ça tient? Dit-elle.
Est-ce que ça tient au livre? Est-ce que c'est justement c'est tout le contraire de ces émissions de télé-réalité où on vient déballer son affaire? Est-ce que justement parler dans un livre, si on peut dire, est-ce que c'est pas tout le contraire? Est-ce que c'est pas Il n'y a pas de question d'impudeur ou de pudeur. Il est question de faire œuvre commune. Je me demande si c'est pas ça qui a donné cette urgence-là, de faire une œuvre, de faire quelque chose ensemble.
En même temps, ça rejoint aussi quelque chose de votre langue, absolument, qui va vite. Vous avez écrit Marilyn Desbioles il n'y a pas très longtemps, une femme qui court. Il y a quelque chose dans votre phrase qui court. Donc il y a aussi l'idée que peut-être leur urgence à faire œuvre commune à ces femmes qui vous racontent leur vie rejoint aussi quelque chose de votre écriture qui est urgent, mais qui a peut-être plus à voir avec l'écriture, non?
Oui. D'ailleurs, ces roses, je les ai vues une heure, hein, ou deux, pas plus. c'était très resserré dans le temps. Il y a l'histoire aussi, justement, du format. Notre format, nous, était un petit format. Un format, je vous montre comme si c'était une toile, parce que oui, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose aussi de la peinture. Et le livre lui-même épouse ce format de l'urgence, c'est-à-dire un petit format où ça va vite, même si on met plus de temps à l'écrire, bon, même s'il y a tout ce côté laborieux. En tout cas, il y a... encore une fois, ce désir, moi, j'étais excitée à l'idée de les rencontrer, vraiment. Et j'essayais de pas trop le manifester, mais oui, il y avait ça.
Ne me regardez pas sautiller sur ma chaise. Je vous écoute.
Il y avait ce désir-là qui appelle l'urgence. Et je sais pas mieux dire.
Et quelque chose que vous redoublez par l'idée d'une nuit. Puisque Rose la nuit, c'est la temporalité de votre livre, Marilyn Débiol, qui raccroche aussi avec la tradition, notamment de Sherazade, qui raconte pour retenir la nuit et ne pas mourir. À ce propos, on va écouter le philosophe Michael Fossel.
La nuit, elle est habitable parce qu'elle est un monde. Elle n'est pas nécessairement l'absence de monde, elle n'est pas nécessairement liée à cette angoisse que non seulement nous pouvons expérimenter dans certaines expériences d'insomnie, mais aussi que le mot nuit souvent évoque avec toute sa charge sémantique un peu ténébreuse, c'est le cas de le dire. Et j'ai voulu essayer de montrer comme ça par touche que il y a dans la nuit non seulement des possibilités d'expérimenter ce que le jour ne permet pas, mais aussi des possibilités de penser et je dirais même de voir paradoxalement des choses ou des lumières que le jour masque.
Le philosophe et auteur Michael Fessel qui avait consacré un livre à la nuit et qu'on entend ici dans cette archive, Marilyn Débiol, qui fait plein d'hypothèses sur ce que peut la nuit. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet espace-temps pour votre roman, pour ses paroles, aussi pour le cadre de Poupée Gigogne qui contient toutes les histoires?
Et quand je disais oui, que mes roses et moi étions dans le livre, c'était évidemment on se rencontrait le jour, hein, pas la nuit. Bon, mais c'était comme d'être, c'est aussi bizarre à penser, mais c'était comme si on était dans un autre espace-temps
et dans ces entretiens.
Oui.
Pendant ces entretiens.
Et il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du sommeil dans l'écriture, il me semble.
Vous l'écrivez même littéralement.
Oui. Vraiment. D'ailleurs, quand j'ai quand j'arrive plus à ne rien faire, moi, il me suffit. J'ai cette faculté-là de dormir 5 minutes.
Waouh.
Et je trouve quelque chose dans ce vertige de tomber dans la nuit. Ça fait partie de l'écriture, moi, je crois.
Et ça fait partie de ce livre où la question du sommeil, la possibilité aussi de s'abandonner à l'autre. Est-ce que je peux poser ma tête? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que tu t'endors? C'est des questions qui reviennent comme ça dans le livre, voilà. Marilyn Débiol.
Est-ce que je ne t'ennuie pas trop en te disant ce que je suis en train d'écrire?
Est-ce qu'on rêve?
Mais est-ce que je t'ennuie à tel point que tu dors, mais c'est pas grave?
Oui, il y a quelque
c'est
chose
pas grave.
De la
tu
nuit,
m'entends
du
dans
rêve.
Ton sommeil. C'est pas grave. Puis il y a aussi cette expérience que beaucoup d'entre nous ont faite de lire à nos enfants des contes juste avant qu'ils s'endorment, ce qui les tient très éveillés. et ça, c'est une chose qui a compté, c'est le cas de dire pour moi.
En tant qu'enfant ou en tant qu'actrice?
En tant qu'actrice. De lire des contes à ma fille et d'avoir justement ces mots du conte qu'on lit avec une petite veilleuse. Il y a ça aussi, hein, dans l'idée de parler la nuit, d'endormir ses enfants, mais aussi d'être au plus proche à ce moment-là d'eux.
Mais ce n'est pas dans n'importe quelle nuit que ces histoires se déploient, c'est la nuit de l'hôpital.
Oui.
Et c'est pas facile la nuit à l'hôpital. On peut dire qu'en ce moment, c'est jamais facile à l'hôpital, mais la nuit à l'hôpital, il y a encore plus quelque chose de... Peut-être du danger, mais aussi de la précarité.
Oui.
C'est pas rien d'avoir décidé de placer, comme le décor cadre, Marilyn Débiol, c'est l'hôpital.
Oui,
c'est
vrai.
C'est la nuit à l'hôpital.
Bon, il se trouve que j'ai un peu fréquenté l'hôpital en tant qu'accompagnante ces derniers temps. Mais la nuit, c'est vrai que c'est un danger, mais en même temps, c'est extrêmement sécurisant. Tout d'un coup, de trouver, alors qu'on est en situation de grande vulnérabilité, l'hôpital est là pour nous prendre en charge avec ses femmes, les infirmières et les aides-soignantes. qui sont souvent quand même extraordinaires, il faut bien le dire, et qui, bon là, certaines se moquent de Rose, mais elles l'écoutent en tout cas. Mm. Et il y a quand même cette idée dans l'hôpital de la d'être bon malgré tout ce qu'on peut, enfin malgré tous les défauts, etc. Mais il y a quand même le fait d'être en sécurité, hein, d'être comme dans l'enfance, dans un lit, à une place, et d'être entouré malgré tout, d'être d'être pas consolé, mais d'être un petit peu entendu, oui. Alors que bon, cette femme, Rose, elle ne l'est pas du tout. Et d'avoir la possibilité, c'est ce qui lui donne la possibilité du conte, alors qu'elle ne parle plus depuis très longtemps, on s'en doute.
On l'entendait dans la voix de Laurence prononcer ce mot-là, chose que j'ai fait aussi en citant ce si beau extrait de poème de Gertrude Stein, Rose is a rose is a rose. C'est un mot magique un peu.
Oui.
C'est vrai, hein. C'est un mot qui, d'un seul coup, peut-être pousse à la métaphore. Enfin, en tout cas, nous déplace dans le langage. On entendait notre auditrice parler d'un jeu de saute-mouton entre les histoires de Rose. Enfin, c'est comme si c'était une sorte d'initiation au poème, quelque chose qui allait vers le poème. Vous avez cité aussi tout à l'heure Louise Gluck. Comme si dans votre roman, Rose la nuit, il y avait quelque chose qui tendait vers cette forme-là du poème.
Oui, oui, bien sûr. Moi, je crois que j'ai commencé par écrire de la poésie. Ça m'a pas quitté, même si je n'écris plus des vers, je ne vais plus à la ligne, mais en tout cas, parce qu'il m'a semblé à un moment que la prose portait en elle
cette possibilité-là,
cette possibilité, ce désir-là de poésie. Mmh. J'aurais beaucoup dit ce mot de désir.
Bonne nouvelle, non ? On est en janvier, là. Si c'est pas ce mot-là qu'on prononce 1500 fois par jour, on est mal barré. Donc
c'est
continuons.
Vrai.
Le book club continue. À cette heure-ci, dans le Book Club, on fait un agenda. On vous propose de relayer des informations en lien avec le livre, la lecture, l'écriture. Vous pouvez nous en faire parvenir via l'adresse lebookclub@radiofrance.com. C'est aussi, je le rappelle, une adresse où vous pouvez nous écrire. On voulait vous parler d'un festival qui s'appelle Le Goût des Autres. Du 15 au 18 janvier prochain, se tiendra la 15e édition de ce festival au Havre. L'entrée est gratuite. Le thème de cette année, ce sera Jouer le jeu. En parallèle des festivités liées à ce thème, le festival propose des rencontres avec les auteurs et autrices majeurs des rentrées littéraires de septembre 2025 et janvier 2026, ainsi que plusieurs spectacles et des lectures. C'est un programme qui s'augmente d'un programme jeunesse, pensé pour l'occasion. Tout est à retrouver, toutes les informations pratiques sur le site de la ville du Havre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Dans le Book Club, on joue à un grand jeu. Alors, ou bien c'est nous qui jouons tout seuls comme des grandes et comme des grands, ou bien on fait appel à nos auditeurs à chercher la musique dans les livres, Marilyn Debiol. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. Nous cherchons la musique dans les livres dont nous parlons en direct dans les émissions, et nous proposons aussi à nos auditeurs et auditrices de la chercher. On disait tout à l'heure, on entendait Jeune Berger dire qu'il cherchait comme un chien la trace de la narration. Ben, il s'agirait de faire pareil avec la musique dans les textes. Et il se trouve que, encore une fois, dans Rose la nuit, il y a trace de musique, il y a trace de chansons, il y a trace d'air qu'on fredonne, il y a trace de paroles. On va donc se quitter avec un extrait de votre roman, mais qu'est-ce que ça raconte de votre écriture, Marilyn Debiol, cette coprésence de la, on va dire, prose littéraire pure et dure et des traces musicales.
Et des traces aussi de chansons qui ont l'air... Alors on a dit des choses très sérieuses et ça l'est, la chanson est très sérieuse, mais il y a aussi comment dire, dans les livres, enfin, il y a aussi du rire, de la légèreté. Enfin, j'espère, moi, j'aspire aussi à cette légèreté et à ce rire qui est, pour moi, qui est vraiment fondateur. Quand je trouve quelque chose de beau ou quand je trouve un truc de beau, je veux dire, pas dans mes livres, hein, mais autour de moi, ou quand je trouve un truc dans mes livres, moi, ça me donne vraiment envie de rire. La chanson, ça fait partie de ça, de cette... de ce rire malgré tout.
Alors, on se quitte avec un extrait de Rose la nuit.
Thank you.
Je rencontre celui qui m'appelle Romarin, celui qui écrit et chante des chansons, celui dont je suis la fiancée d'hiver. Souvent, il me fredonnait Suzanne de Leonard Cohen. Suzanne qui vit près de la rivière et qui est à moitié folle. Il fredonnait le refrain « And you want to travel with her, and you want to travel blind ». Il fredonnait et je n'écoutais même pas les paroles. J'aimais sa voix, qui me faisait chaud. Et je ne savais pas pourquoi il me chantait si souvent cette chanson. Mais je m'en fichais. J'aimais bien qu'il me la chante. Un jour, il m'a dit que Suzanne venait de l'hébreu Shoshana, qui veut dire rose. Celui dont je suis la fiancée d'hiver s'appelle Claude. Rire avec Claude est ce que j'ai connu de mieux au monde. On avait le projet d'aller à Cuba, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Un matin, je suis venue lui annoncer, triomphante, que j'avais touché une prime de 1000 euros. Je l'ai trouvé mort dans son lit. Tapisserie aux 1000 fleurs pour tisser un hommage à Claude, d'où sa personne serait absente, juste les fleurs. 1000 roses, bien entendu. Et tu veux voyager avec elle. Et tu veux voyager les yeux fermés. Et tu sais qu'elle te fera confiance. Car en esprit, tu as touché son corps parfait.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager les yeux fermés. Longtemps du haut d'une tour solitaire quand il a compris.
C'est Françoise Hardy qui chante la chanson de Leonard Cohen et on retrouve la flamme qu'on évoquait tout à l'heure, décidément, Marilyn Desviol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour évoquer
Merci.
Rose la nuit.
Merci à vous pour ce cadeau de début d'année.
Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. On peut lire votre livre paru chez Sabine Vespizer, éditeur, et les précédents dans la même maison. Merci beaucoup à toute l'équipe du Book Club, Luc Evovillé, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Léa Weisgruss, Alexandra Lajbegovic. Je sais qu'elles et eux se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 2026.